Alors, je présente maintenant rapidement Michel Imbert. Rassurez-vous, de toute manière, il aura son temps. Hein, mon temps de parole n'est pas pris sur le sien. Michel Imbert est né en 1935 à Béziers. Il est actuellement professeur de neurosciences à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Il y est depuis 1993. Il est aussi directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales depuis 1987. C'est un spécialiste du système nerveux central et plus spécifiquement des mécanismes de la vision. Ses travaux portent sur le rôle que joue l'expérience sensorimotrice précoce dans le développement postnatal, des propriétés de codage du cortex. Et il a récemment abordé l'étude des mécanismes corticaux de la vision tridimensionnelle, et notamment chez le singe. Bon, il a aussi commencé une analyse théorique du réseau cortical des aires visuelles du primate en collaboration avec des mathématiciens de l'École des hautes études en sciences sociales. Sa carrière est celle d'un universitaire et d'un chercheur. Il a été assistant à la faculté des sciences de Paris d'abord, maître assistant, maître de conférence de psychophysiologie à la faculté de Toulouse dans les années 60-70, 67-72. Il a été sous-directeur du laboratoire de neurophysiologie au Collège de France de 72 à 81. Il a eu diverses fonctions de direction scientifique dans le département des sciences de la vie au CNRS. Il a été professeur de neurobiologie à l'université d'Orsay, puis à l'université Pierre et Marie Curie. Et comme je vous l'ai dit, depuis 1993, il est directeur du centre de recherche cerveau et cognition et rattaché à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Ses publications sont nombreuses, comme il est de rigueur quand nous présentons nos conférenciers. Il y a beaucoup de publications scientifiques, techniques dans des revues très spécialisées. Michel Imbert a aussi publié des articles de vulgarisation. Vous retrouverez toutes ces indications bibliographiques sur les sites internet, parce que je suis obligé de me limiter à quelques sondages. Je vous indique quelques-unes de ces. Le cerveau et la vision dans Cerveau et machine, paru chez Hermès en 1999. Les sciences du cerveau dans 1000 cerveaux, 1000 mondes, chez Nathan en 1999. Traitement rétinien de l'information visuelle dans Exploration de la fonction visuelle chez Masson, et puis des ouvrages beaucoup plus spécialisés sur vision, neurophysiologie fonctionnelle en 86 chez Hermann, mécanismes fondamentaux et centres nerveux en 93, commande et régulation neurovégétative. Bon, je passe sur les distinctions, les prix et les académies dont il fait partie. Je veux seulement signaler qu'il est membre senior de l'Institut universitaire de France depuis 1994. Donc je lui cède la parole maintenant pour une cinquantaine de minutes pour sa conférence sur la conscience et le cerveau. Merci.
Je vous remercie pour ces paroles très généreuses de présentation. Et effectivement, je vais vous parler ce soir de conscience et cerveau. C'est un titre qui suscite beaucoup d'intérêt, j'en suis conscient, et pas seulement dans le grand public, mais également chez les philosophes et chez les neurobiologistes. Depuis une dizaine d'années à peu près, on assiste à une véritable, je dirais, industrie concernant conscience et cerveau. Le nombre de livres, d'articles, de recueils d'articles publiés dans des livres, le nombre de revues qui sont spécifiquement consacrées à l'étude des relations entre la conscience et le cerveau, le nombre de conférences, de symposia, le nombre de sites internet sur lesquels il y a tous les jours, des discussions sur ce sujet, c'est tout simplement confondant. Alors évidemment, cette activité fébrile qui existe depuis une dizaine d'années, elle est très riche en promesses, mais il y a quand même pas mal d'obscurité, de confusion et d'illusion. Alors, je pense que cet engouement pour les relations entre la conscience et le cerveau viennent essentiellement, pour une première partie, du cerveau lui-même. Alors, attends, me donner une seconde pour allumer. Voilà. Du cerveau lui-même. En effet, la question qui intéresse essentiellement les spécialistes du système nerveux, lorsqu'ils s'intéressent également aux problèmes de conscience, c'est de chercher un corrélat neural à la conscience. Alors, bien entendu, pour trouver un corrélat neural à la conscience, il faut quand même d'abord savoir ce que sont à la fois le cerveau et la conscience. En ce qui concerne le cerveau, il n'y a pas de difficulté majeure, nous le connaissons, nous pensons le connaître. C'est un objet biologique qui est visible, il est mesurable, on peut le peser, il fait environ 1,5 kg en moyenne. C'est une matière qui est plus ou moins gélatineuse et surtout qui est étudiée depuis de très nombreuses années et actuellement par, je dirais, plus de 150 000 scientifiques de par le monde. Des biologistes, bien sûr, mais des généticiens, des médecins, des physiciens, des mathématiciens, des informaticiens, des psychologues, et j'en passe, examinent et étudient expérimentalement ce cerveau. Alors, j'ai représenté ici, vous avez ici une image tout à fait classique qui n'est pas récente du tout, elle a plus d'un siècle d'âge. C'est la représentation, la cartographie dite sito-architectonique qui a été proposée par Brodmann à la fin du 19e siècle, au début du 20e, en 1909, je crois, publié. Et simplement, il a étudié chez le cerveau humain, mais il a étudié également chez d'autres espèces animales, le cerveau un petit peu comme un géologue étudie un paysage, c'est-à-dire qu'il a essayé de déterminer dans chacune des régions du cerveau les ressemblances et les différences en fonction du nombre de cellules, de la forme de cellules et de la disposition des cellules dans les différentes régions corticales. Ceci permet d'établir des cartes sito-architectoniques qui sont encore utilisées aujourd'hui par les neurobiologistes qui étudient avec des techniques beaucoup plus modernes d'imagerie cérébrale qui étudie le cerveau. Alors, en ce qui concerne la conscience, là, la situation est beaucoup plus difficile parce que jusqu'à présent, personne n'a vu la conscience, sauf dans un film de science-fiction que vous avez peut-être vu de 1966, qui s'appelait Le Voyage fantastique, par un film de Fleischer, dans lequel il y avait Arthur Kennedy et Raquel Welch. Et ils avaient pour mission d'aller détruire un petit caillot qui était en train de se former dans le cerveau d'un personnage très important et qui risquait de lui causer des ennuis. Et il fallait donc aller détruire ce petit caillot. Donc on les a réduits en taille jusqu'à ce qu'ils puissent tenir dans un tout petit sous-marin. Et on a envoyé ce sous-marin dans le flot sanguin. Ils se sont fait un grand voyage à travers la circulation sanguine jusqu'à arriver dans le cerveau. Et à un moment donné, il passe quelque part du côté du mésencéphale, j'imagine, ou je ne sais où, et il voit un magnifique petit brouillard bleu qui est en train de s'élever comme ça. Et Arthur Kennedy fait remarquer à Raquel Welch, « Regarde, nous sommes les premiers à voir véritablement les pensées d'un homme. » À ma connaissance, ils ont été les derniers. Quoique, comme dirait un ami, encore que beaucoup s'imaginent aujourd'hui qu'en examinant les couleurs des images obtenues par les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, dont nous reparlerons en détail dans un instant, ils voient aussi les pensées. Mais avant de s'interroger sur les relations entre cerveau et conscience, il convient, je me semble, de préciser un petit peu la notion de conscience et d'en distinguer au moins les divers types, les divers usages que nous en faisons dans notre vie plus ou moins courante. Alors ceci n'est pas une mince affaire. Cette notion est très vague, tout le monde l'utilise, on l'utilise constamment, pensant, croyant savoir ce qu'elle veut dire, mais quand on vous demande de la définir avec précision, là, ça commence à coincer. On ne sait pas trop comment le faire. En effet, cette notion de conscience recouvre des phénomènes qui sont très nombreux, très variés, et qui n'ont entre eux souvent que très peu de choses en commun. Alors, elle peut désigner des phénomènes qui ne sont pas fondamentalement différents de phénomènes non conscients. Ils sont peut-être simplement moins robustes, moins forts. Alors, un bon exemple de cela, c'est ce que les psychologues, en particulier les neuropsychologues et les psycholinguistes, appellent l'amorçage. Une stimulation sensorielle sous-liminaire, par définition donc non perçue de façon consciente, une image, celle d'un objet, d'une scène ou d'un mot, est présentée pendant un temps si bref qu'elle passe totalement inaperçue aux yeux du sujet. Cependant, cette image peut avoir des effets sur son comportement et, par exemple, l'influencer dans sa décision de choisir un exemplaire donné dans une collection d'objets qui lui est présenté comme ceci, ou de choisir tel mot plutôt que tel autre dans une liste qui, cette fois-ci, il est capable de lire de façon tout à fait consciente. Ces effets, si vous voulez, ne sont guère différents de ceux qui auraient été obtenus si la stimulation avait été consciemment perçue. Un autre sens, complètement différent, c'est celui qui est sous-tendu dans l'expression « je suis conscient d'une rage de dents »,« je suis conscient de mal à la tête » ou encore « je suis conscient d'un obstacle sur mon chemin ». Pourtant, ces deux phénomènes n'ont que très peu de choses à voir en commun. Les deux sont, du point de vue du neurobiologiste, sont pris en charge par des récepteurs sensoriels et par des sous-systèmes du système nerveux central, le système somatique dans le premier exemple, le système visuel dans le second exemple, qui sont de la périphérie jusqu'au niveau central complètement séparés et qui n'ont que très peu à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, dans un cas comme dans l'autre, on emploie le terme conscient. Enfin, je suis conscient d'être aujourd'hui, là, en ce moment, moi qui vous parle, le même que celui que j'étais hier, et probablement, je l'espère en tout cas, le même que celui que je serai demain. Donc il y a une confiance très grande dans l'unité, confiance tout à fait spontanée, dans l'unité de la conscience. Et pourtant, on sait que des patients qui ont été opérés d'une opération qui consiste à séparer les deux hémisphères en coupant le grand système commissural qui met en relation l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, que l'on appelle le corps calleux, et on fait cette opération pour soulager certains patients qui ont des épilepsies très, très importantes. Nous savons que ces patients, qui en se trouvent donc avec deux hémisphères qui ne sont plus capables de communiquer entre eux par ce système commissural, ont des consciences qui peuvent se dédoubler. Tout se passe comme si chacun des hémisphères, l'hémisphère gauche d'une part, l'hémisphère droit d'autre part, désormais indépendant anatomiquement et physiologiquement, possédait sa propre conscience. D'où notre confiance spontanée dans l'unité de la conscience un petit peu battue en brèche. Alors, ces exemples mériteraient, bien entendu, de longs développements. Ils suffisent simplement à nous persuader de la nécessité d'une clarification conceptuelle. Alors, beaucoup de philosophes et de neurobiologistes s'y emploient, donc déjà depuis, comme je le disais tout à l'heure, une dizaine d'années. Les discussions sont très riches, sont parfois très difficiles, et pour quelqu'un qui n'est pas, disons, habitué à ce genre d'argument, c'est parfois un petit peu... on est perdu, ou c'est parfois même un petit peu agaçant. Alors pour un biologiste, particulièrement pour un neurobiologiste, un organisme, animal, humain ou non humain, est conscient, le sens le plus banal du terme, lorsqu'il n'est pas endormi d'un sommeil profond et sans rêve, lorsqu'il n'est pas comateux ou lorsqu'il n'est pas profondément anesthésié. C'est l'état dans lequel nous nous retrouvons tous les matins quand on se réveille. Et depuis plus de 50 ans, depuis même un peu plus longtemps que ça, des neurophysiologistes étudient les particularités des activités cérébrales, les activités électriques cérébrales que l'on peut recueillir sur le scalp avec des électrodes. Ce sont des variations de potentiel très très faibles, de l'ordre de quelques dizaines de microvolts, des activités qui sont des activités rythmiques. Et en recueillant ces activités, on sait maintenant dans quel état de conscience se trouve l'animal en question, l'animal ou le sujet humain en question. On sait s'il dort, et non seulement on sait s'il dort, mais on sait s'il dort d'un sommeil profond, à ce moment-là il présente des rythmes relativement lents et de grande amplitude, ou d'un sommeil dit paradoxal, ou un sommeil avec mouvement oculaire, où les activités électriques sont au contraire de faible amplitude et de fréquence très élevée. À ce moment-là, il y a des mouvements oculaires très rapides, il n'y a plus aucun tonus musculaire, et on a d'excellents arguments pour penser que c'est dans cette période, dans cette phase particulière de sommeil, que le sujet est en train de rêver. Pourrait-on dire à ce moment-là qu'un cerveau d'un homme endormi qui rêve est conscient? C'est peut-être une question que nous aborderons un peu plus tard. Donc, c'est une technique, l'électroencéphalographie, c'est le nom que porte cette technique, qui est extrêmement utilisée. Elle a été même utilisée en 1935 par un chercheur français, Alfred Fessard, qui a utilisé cette technique-là pour, il était à ma connaissance un des tout premiers, pour essayer de comprendre les relations entre le fonctionnement cérébral tel qu'il le mettait en évidence par ces techniques électrophysiologiques et certains types de comportements attentionnels en particulier. Alors, la forme, la fréquence, la distribution topographique de ces ondes cérébrales est riche d'enseignements, et non seulement pour le neurologue, parce qu'elle permet de déterminer un certain nombre de pathologies qui peuvent être ainsi bien mises en évidence, l'épilepsie en particulier, mais également le fait d'enregistrer chez un organisme son activité cérébrale peut avoir un intérêt en chirurgie pour surveiller la profondeur d'une anesthésie, peut avoir un intérêt dans certaines situations de travail, en ergonomie par exemple, pour vérifier le niveau de vigilance d'un opérateur humain, comme on dit dans cette discipline-là. Il a également un intérêt en éthique médicale pour décider de la mort clinique de quelqu'un. Alors, cette forme de conscience qui est le premier niveau de la conscience, si je puis dire, enfin le premier, plus facile en tout cas, abordé, ne doit pas être confondue avec une autre définition de la conscience sur laquelle je voudrais maintenant revenir. Alors ce premier niveau, c'est ce que j'ai appelé ici, à la suite d'un certain nombre de philosophes, la conscience de créature. Donc c'est un organisme, un animal ou un sujet humain, il est conscient ou il n'est pas conscient. S'il n'est pas conscient, c'est qu'il est endormi ou qu'il est comateux. Et il faut distinguer cette définition de la conscience que l'on dit d'un état mental. Quand on dit qu'un état mental, c'est-à-dire une perception, une pensée, une croyance, un désir, un souhait, qu'il est conscient. Ça, c'est complètement différent. Et un philosophe contemporain, Ned Block, propose de distinguer au sein même de cette conscience d'état mental deux niveaux, deux types de conscience, ce qu'il appelle la conscience phénoménale et la conscience d'accès. Alors la conscience phénoménale, au dire même de Bloch, qui est celui qui a proposé cette terminologie, elle est très difficile à définir, sinon en ayant recours à des synonymes. Alors en anglais c'est très facile parce qu'il y a plusieurs mots qui sont en français traduits par le même mot conscience. En anglais on peut dire awareness ou consciousness. Et vous trouvez, c'est un peu mon mauvais esprit qui apparaît là, on peut trouver de très nombreux écrits dans lesquels on voit que la conscience est définie à partir de l'awareness, consciousness à partir de l'awareness ou vice-versa. Donc quelque chose d'un peu circulaire. Alors, au mieux, ce qu'on peut faire, c'est d'en donner des exemples et dire que la conscience phénoménale, c'est ce que je ressens, par exemple, quand je vois le bleu du ciel, quand j'entends le clapotis d'une rivière, quand je flaire l'odeur des sous-bois, quand je ressens une douleur dans ma dent ou dans ma tête. La conscience phénoménale, ou conscience P, comme c'est appelé par les philosophes actuellement, reflète le caractère irrémédiablement privé de ce que je suis en train de vivre, moi, personnellement, à cette heure-ci, à la première personne. C'est un petit peu ce que ça me fait de ressentir ce mal de tête ou d'éprouver ce bien-être quand je suis dans mon bain. C'est ce que ça me fait. Alors évidemment, c'est pas évident de trouver des corrélats à cela. Et en effet, ce type de conscience, considéré comme une expérience vécue, une expérience vécue subjective, au dire de certains neurobiologistes et philosophes, c'est un mystère. C'est un mystère, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, actuellement ou pour toujours, de faire entrer ce type de conscience dans le cadre d'un discours scientifique avec, disons, les exigences méthodologique et épistémologique d'un discours scientifique. Alors, de deux choses l'une, ou bien c'est parce qu'actuellement, nous n'avons pas encore suffisamment à la fois de techniques, de méthodes et de concepts pour apprivoiser cette conscience phénoménale, subjective, à la science, ou bien, pour certains philosophes, elle traduit simplement ce qu'ils appellent une clôture cognitive, c'est-à-dire le fait que nous sommes définitivement, et nous sommes construits comme cela par l'évolution naturelle, incapables d'aborder ce problème-là, qui restera donc définitivement un mystère. Donc je ne m'étendrai pas beaucoup sur cette partie-là, je la reprendrai à la fin de mon exposé. Par contre, la conscience d'accès, toujours d'après Ned Block, est plus simple, elle est plus facile en quelque sorte à définir. C'est un tissu très serré de propriétés caractéristique de la vie mentale. Et elle est déterminée principalement par trois compétences cognitives fondamentales, toutes trois centrées sur une même idée, une même notion, la notion de rationalité. Et ces trois aspects sont la pensée rationnelle, la pensée articulée, si je puis dire, le langage et l'action. Je dis bien l'action, pas le mouvement, c'est-à-dire l'enchaînement d'un certain nombre de gestes en vue d'obtenir un certain résultat. Donc là, c'est pareil, on voit apparaître, si vous voulez, ce contrôle rationnel du comportement. Bien entendu, ces trois conditions n'ont pas besoin d'être présentes toutes en même temps pour définir une conscience d'accès, en particulier si l'on pense que certains animaux, en tout cas, même s'ils sont dépourvus de langage syntaxique, à ma connaissance, aucun animal, même pas les chimpanzés, sont capables d'entretenir une conversation avec qui que ce soit, si l'on veut que, quand même, certains animaux puissent présenter certains phénomènes de conscience. Alors, ces états de conscience sont ce que les philosophes spécialistes d'un certain type de philosophie, la philosophie de l'esprit, conçoivent comme une attitude propositionnelle. Une attitude propositionnelle, c'est une attitude dont le contenu, c'est-à-dire la proposition qui la définit, qui est pensée, désirée, souhaitée, redoutée, imaginée, tout ce que vous voudrez, est définie par une représentation. Alors les psychologues, et en particulier les psychologues expérimentalistes, les psychologues qui font de la psychologie cognitive, utilisent également le même terme de représentation. Ces représentations, donc, sont des contenus qui sont capables de porter ou d'être dirigés vers quelque chose. Ils ont ce qu'on appelle un contenu intentionnel, ils servent à quelque chose. Et alors l'aspect le plus important de ces états conscients de conscience d'accès est qu'ils présentent à la conscience, ils se présentent à la conscience comme un accès à l'information disponible pour un organisme doué de rationalité. Alors dans les termes même de Ned Block, je propose sa citation, une représentation est consciente d'accès si elle est prête à un libre emploi dans le raisonnement et le contrôle rationnel direct de l'action et du discours. Et chez les êtres humains, en général, la plupart du temps, ces états de conscience d'accès sont verbalisables, peuvent être verbalisés, même s'ils ne sont pas toujours verbalisés. Alors ici, je voudrais faire une remarque qui s'avérera peut-être importante un peu plus tard quand nous parlerons des cas de perception non consciente, et qui est la suivante. À côté d'une masse d'informations traitées en continu par le cerveau et à laquelle l'organisme, grâce à des systèmes cognitifs, fonde sa rationalité, accède de façon consciente, il existe une masse d'informations qui échappe totalement à la conscience. Ce sont les informations, premièrement, qui sont délivrées en permanence, en continu, par le système nerveux autonome, qui ont pour origine des récepteurs qui sont situés dans nos viscères. Nous avons en permanence, notre cerveau est en permanence informé sur l'état de notre pression artérielle. On n'en est absolument pas conscient, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a souvent des accidents. Ce sont également des informations qui circulent de façon continue dans tous les réseaux cérébraux, dans tout notre cerveau, pour y être traitées avant d'être livrées au système de conscience d'accès. Et donc de pouvoir, à ce moment-là, être utilisé de façon rationnelle pour guider un comportement, pour guider une action, pour guider le langage. Alors, si vous voulez, il y a une espèce de double détente. Avant d'accéder à la conscience, l'information doit être pré-traitée, de façon non consciente. Et une fois qu'elle a été traitée de façon non consciente, elle est délivrée à un autre système de traitement qui permet à cette information d'accéder à la conscience. Alors, il est toujours possible de passer d'un traitement conscient à un traitement non conscient et vice-versa. Et je prendrai un exemple. Si j'apprends un nouveau geste, une nouvelle habileté, par exemple à faire du patin à roulettes, eh bien, au départ, si vous voulez, je dois accéder à toutes les informations visuelles, les informations proprioceptives, les informations vestibulaires, les informations végétatives, pour pouvoir contrôler de façon très assurer les différents gestes qui vont composer mon habileté, à savoir faire du patin à roulettes. Mais une fois que je sais faire du patin à roulettes, toutes ces informations conscientes sont court-circuitées. Et je n'ai plus besoin de prêter, en quelque sorte, conscience à toutes ces informations pour pouvoir faire correctement du patin à roulettes. Même j'ai parfois intérêt à ne pas, à ne pas en avoir conscience, parce que nous savons tous très bien qu'il suffit parfois de reprendre le contrôle conscient sur ces gestes pour entraver leur déroulement harmonieux. Alors voilà, si vous voulez, une première clarification conceptuelle. Et je pense qu'il faut également parler de la conscience de soi, qui renvoie à la capacité que possède un organisme de créer une représentation, j'allais dire, de second ordre sur ses propres états mentaux. Donc elle a un caractère récursif. Je pense que je pense, je suis conscient que je suis conscient. Et ce caractère réflexif, si vous voulez, récursif, débouche sur un problème qui est très connu en psychologie cognitive et en éthologie également, qui est le problème connu sous le terme un peu barbare de théorie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit ? C'est tout simplement la capacité qu'ont certains organismes, en particulier les êtres humains, d'attribuer à leurs congénères des états mentaux. Et ces états mentaux, bien entendu, ils ne sont pas visibles, sinon tous les problèmes seraient résolus. Je dois donc les inférer, et je les infère à partir de ce que je connais moi directement à la première personne, de mes propres états mentaux. Cette capacité d'attribuer des états mentaux aux autres, et qui est donc des états mentaux qui sont inférés et non observés, s'appelle la théorie de l'esprit. Alors la question de savoir si, en dehors de l'espèce humaine, il y a des espèces qui ont, des espèces animales, qui ont la capacité de développer une théorie de l'esprit, c'est une question qui est très débattue. Même les chimpanzés, sur lesquels on a eu de bons arguments à une époque pour montrer qu'ils en avaient une, c'était précisément à l'époque où on pensait qu'on était encore capable de leur apprendre à parler. Quand on a vraiment été découragé et quand on s'est rendu compte qu'il n'était pas possible qu'un chimpanzé ou un orang-outan, enfin un anthropoïde, puisse jamais acquérir un langage syntaxique, conversationnel, l'enthousiasme pour attribuer aux chimpanzés une théorie de l'esprit a beaucoup diminué. Alors cette brève mise en place, si vous voulez, est extrêmement faible. Je ne suis pas philosophe et je n'ai pas du tout l'intention d'aller plus avant. Elle a simplement pour mérite de classer un petit peu les différents phénomènes, de mettre un peu d'ordre avant de présenter un certain nombre de résultats expérimentaux que les neurosciences cognitives aujourd'hui offrent dans le domaine précisément des relations entre la conscience et le cerveau. Alors, je voudrais faire une première remarque sur la partie des neurosciences qui va principalement et essentiellement s'intéresser à ces relations entre conscience et cerveau, et que l'on appelle les neurosciences cognitives. Alors, ces neurosciences cognitives visent à mettre en évidence, effectivement, les structures neurologiques ou les sous-structures de notre cerveau qui sous-tendent des fonctions cognitives, afin notamment de comprendre les relations qu'entretiennent le cerveau et des comportements réputés intelligents, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas produits de façon purement réflexe, que ces comportements soient d'ailleurs accompagnés ou non d'états de conscience. Alors pour mener à bien, c'est-à-dire voir en quelque sorte une organisation neurale en action, depuis une vingtaine d'années, un programme de recherche a été initié, notamment au départ par quelqu'un qui a une influence considérable, et qui s'appelle David Marr. David Marr a publié en 1982, donc il y a 20 ans, un livre qui s'appelait Vision, et vous voyez, le sous-titre en quelque sorte est très important parce qu'il met bien que sa préoccupation, c'est d'étudier la vision, la perception, l'analyse des scènes, la perception humaine en particulier, mais dans le cadre d'une conception plus générale lui permettant d'envisager d'utiliser des connaissances sur la perception humaine pour pouvoir développer des systèmes artificiels de vision par ordinateur. Alors, son idée, si vous voulez, c'est que il faut, quand on veut analyser un problème de traitement de l'information, distinguer trois niveaux. Un premier niveau qui est un niveau, si vous voulez, le niveau de la théorie, qu'elle dit computationnelle. Il définit la fonction que l'on se propose d'étudier en la considérant comme une solution que l'organisme utilise parmi un ensemble de solutions possibles pour résoudre un problème cognitif, un problème de traitement de l'information bien spécifique, que ce problème soit un problème perceptif, un problème moteur ou un problème linguistique. Alors il faut décomposer autant que possible ce problème en sous-problèmes plus simples, relativement indépendants les uns des autres et chacun susceptible d'engager un système neuronal particulier. Il faut ensuite identifier au second niveau, au niveau des algorithmes, les algorithmes mis en œuvre pour réaliser les opérations identifiées au niveau précédent. Et enfin, au troisième niveau, le niveau de l'implémentation, c'est-à-dire là, on va s'intéresser très précisément et très pratiquement à rechercher les zones anatomiques et les opérations au niveau presque, disons, du fonctionnement du neurone isolé, capable d'implémenter des algorithmes développés pour pouvoir résoudre un problème qui se pose à un niveau très abstrait. Alors, il est évident que de toutes les formes de conscience dont nous avons parlé jusqu'à présent, en particulier entre la conscience de soi ou la conscience phénoménale et la conscience d'accès, c'est la conscience d'accès, bien entendu, qui va se prêter le mieux à être abordée par les neurosciences cognitives. Et c'est ce qui fait dire à certains qu'elle représente en quelque sorte un côté facile du problème de la conscience, facile pouvant vouloir simplement dire ici précisément que c'est un problème qui peut être abordé avec les méthodes scientifiques éprouvées et qui ne constitue pas du tout un mystère insondable. Alors c'est possible, même si méthodologiquement et techniquement souvent très difficile, de comparer les activités neurales chez un sujet, en particulier un sujet humain, selon qu'il est conscient, au terme de conscience d'accès, ou qu'il n'est pas conscient, c'est-à-dire selon qu'il utilise une représentation disposée prête à l'emploi pour contrôler directement son raisonnement, sa verbalisation ou son action. Alors peut-on voir une organisation neurale en action ? Alors plusieurs méthodes et techniques, certaines sont d'un âge déjà respectable, d'autres très récentes, permettent de mettre en évidence des régions localisées du cerveau, essentiellement du cortex cérébral, c'est beaucoup plus difficile pour les régions sous-corticales, mises en jeu lors d'une tâche cognitive complexe. Alors cette tâche consiste à résoudre un problème, à lire un texte, à réciter un poème, à naviguer dans son imagination à travers un dédale de rue. On vous demande simplement de reparcourir le chemin que vous faites le matin en partant de chez vous pour aller à votre travail, par exemple. Et pendant que vous effectuez ces opérations qui mettent donc en jeu des compétences cognitives, perceptives ou motrices ou imaginatives, eh bien, on enregistre des activités cérébrales et on va essayer de faire des corrélations entre les structures cérébrales qui sont mises en jeu de façon spécifique dans la réalisation de ces tâches et la tâche elle-même. Alors, personnellement, M. Michaud vous l'a dit au départ, j'ai beaucoup travaillé sur le système visuel, donc je vais prendre mes exemples essentiellement sur le système visuel des primates et voir un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire que de rechercher des corrélats neuronaux de la conscience visuelle chez les primates. Alors, un petit mot d'abord du système visuel des primates. Le système visuel des primates est une description, bien entendu, détaillée de ce système-là, des mécanismes et de tout ce que l'on sait à la fois de l'anatomie, des mécanismes et du développement, etc., de la perception visuelle. Ça dépasserait très largement les limites de cette conférence. Alors, essayons simplement d'être relativement simple. Alors voilà un cerveau, c'est l'hémisphère gauche d'un cerveau de macaque, donc vu sur le côté gauche. Vous avez ici la partie antérieure, là c'est la partie postérieure, et la partie supérieure et la partie ventrale. Alors, vous avez un certain nombre de régions dont nous allons reparler beaucoup. Le cerveau, nous l'avons vu dans une des premières diapositives que je vous ai présentées, est subdivisé en de très nombreuses régions différentes. Et en tout cas, en ce qui concerne le cerveau visuel, il faut savoir que toute l'information visuelle qui entre dans le cerveau après avoir été mise en forme par la rétine, je vais revenir dans un instant là-dessus, arrive au pôle occipital du cortex cérébral dans une aire que l'on appelle aire visuelle primaire ou V1. Et là, cette information visuelle va, à partir de V1, être à nouveau redistribuée, dispatchée, pour employer un terme à la mode, va être redistribuée à différentes aires dans le cortex cérébral selon deux voies bien particulières. Une voie dite dorsale et qui va amener donc des informations ou certaines informations traitées de l'information visuelle au niveau des aires pariétales. Et puis une voie que l'on appelle la voie ventrale qui va amener certains aspects de cette information visuelle qui arrive en V1 vers les régions temporales et temporales inférieures du lobe temporal. Et à partir de là, à nouveau, les informations vont être traitées pour être envoyées vers les régions préfrontales et des régions préfrontales vont revenir vers les régions motrices où elles vont pouvoir contrôler un certain nombre de comportements. Si vous voulez, c'est ultra simple à dire comme ça. L'information visuelle arrive en V1 et de là, elle est envoyée dans les régions dorsales vers le lobe pariétal, dans les régions ventrales vers le lobe temporal, pariétal et temporal, et puis de là, elles vont aller vers le cortex préfrontal, et toujours, voyez, ce qui est représenté sur ce dessin, c'est qu'elles restent quand même bien séparées, cette voie dorsale et ventrale, et elles restent séparées jusqu'à arriver séparément dans la région la plus dorsale du cortex moteur, et prémoteur, et dans la région un peu plus ventrale, latérale, du cortex moteur et prémoteur. Voilà, en gros, si vous voulez, mis en place notre système. Alors, qu'est-ce que c'est que cette information visuelle qui arrive en V1 ? Ici, elle arrive de la rétine. Alors, la rétine, c'est tout un monde en soi. C'est un système, c'est du système nerveux central, c'est un morceau de notre cerveau qui, à un stade très précoce du développement embryonnaire, s'est détaché de notre cerveau et a migré vers la périphérie de notre corps. Mais ce que nous avons dans nos yeux, la rétine, c'est du cerveau, hein, c'est vraiment du cerveau. Et ce cerveau a pour fonction principale, c'est le petit cerveau qu'on a dans l'œil, a pour fonction principale de compacter l'image que fournit à la rétine l'optique oculaire. Nous avons une optique oculaire, vous le savez, nous avons une cornée, un cristallin, tout ça, tout un système purement optique qui réalise du monde extérieur, donc des objets et des événements qu'il y a dans le monde extérieur, une image, et qui est réalisée donc par cette optique. Cette image va être traitée par la rétine. Cette image, elle va d'abord être traitée au niveau de la rétine par des photorécepteurs. Et ces photorécepteurs sont très nombreux. Il y en a environ 130 millions. Ça va être traité, donc l'image va en quelque sorte être pixelisée, va être échantillonnée par ces 130 millions de photorécepteurs, et va être traitée et va devoir tenir pour être envoyée au cerveau, sur simplement 1 million de fibres optiques. La sortie de la rétine est composée des fibres qui sont des axones de cellules de sortie de la rétine, que l'on appelle les cellules ganglionnaires, ici, et il y a beaucoup moins de cellules ganglionnaires que de photorécepteurs. Donc l'image est échantillonnée par 130 millions de photorécepteurs et elle va devoir tenir sur 1 million de cellules ganglionnaires qui, chaque cellule ganglionnaire, va élaborer un signal propagé, un potentiel d'action qui va aller vers le cerveau. Alors les mécanismes qui permettent ce compactage sont relativement bien élucidés aujourd'hui et sont représentés sur ce schéma, c'est-à-dire qu'une cellule de sortie, la cellule ganglionnaire, regarde en fait une grande quantité de photorécepteurs au niveau de la mosaïque rétinienne et ces photorécepteurs, la totalité de ces photorécepteurs qui sont en quelque sorte vus par une cellule ganglionnaire constituent ce que l'on appelle un champ récepteur pour la cellule ganglionnaire. Donc c'est une petite région sur la surface rétinienne qui est fonctionnellement connectée avec une cellule ganglionnaire. Et cette petite surface sur la mosaïque rétinienne, évidemment par l'optique oculaire, est conjuguée à une certaine région de l'espace. Donc la cellule ganglionnaire regarde en quelque sorte une certaine région dans l'espace via tous ces mécanismes-là. Et ce qu'elle fait dans cette région de l'espace, elle va distinguer entre ce qui se passe au centre du champ récepteur par rapport à ce qui se passe au pourtour et va mesurer la différence entre ce qu'il y a dans le centre et ce qu'il y a dans le pourtour, c'est-à-dire un contraste. Et en gros, les cellules ganglionnaires mesurent trois types de contrastes. Un contraste simplement dans la disposition spatiale des lumières entre le centre et le pourtour. Un contraste chromatique, c'est-à-dire la position spectrale de la lumière qu'il y a dans le centre par rapport à la lumière qu'il y a dans le pourtour. Par exemple, s'il y a du rouge au centre et du vert au pourtour. Et un contraste temporel, c'est-à-dire la différence dans la rapidité, dans l'établissement de ces différences de luminance ou spectrale entre le centre et le pourtour. Donc ces trois types de contrastes, de luminance, chromatique, spectrale et temporelle, sont des mesures, et ce sont ces mesures qui vont être envoyées au cerveau. Et ces mesures, vous voyez, déjà permettent d'imaginer que le monde extérieur, tel qu'il est représenté sur le fond de la rétine, est transformé en une série de mesures qui n'ont strictement rien à voir avec l'image. Et ces mesures vont permettre maintenant au système nerveux central, enfin plus central, au cerveau proprement dit, et en particulier au cortex cérébral, à partir de ces différentes mesures, de les recombiner ensemble, de les traiter, de faire beaucoup de traitements là-dessus, et de reconstituer en quelque sorte, de résoudre le problème inverse, de reconstituer en quelque sorte tout l'environnement tel que nous le percevons. Alors ça, c'est un problème qui est assez difficile, mais je n'irai pas très loin. Alors ici est représenté le système, toujours le système visuel, cette fois-ci c'est l'hémisphère droit d'un macaque, voilà l'œil, voilà on voit le côté droit de son hémisphère, ça c'est la partie du cortex visuel primaire, et toutes les informations qui arrivent des rétines, de l'œil gauche et de l'œil droit, passent par un petit relais quelque part, bon peu importe, et arrive dans ce cortex visuel primaire, et comme je vous le disais tout à l'heure, est distribué par la voie dorsale et par la route dorsale et par la route ventrale vers différentes aires visuelles. Ce dessin, vous voyez, a 10 ans, cette proposition a 10 ans, et il y a 10 ans, on distinguait déjà 32 aires visuelles, comme ceci, distinctes dans chacun de nos hémisphères. Nous avons 32 régions dans notre cortex cérébral, dans les régions occipito-pariéto temporale, subdivisée en 32 aires, chacune spécialisée dans le traitement, plus ou moins spécialisé, dans le traitement d'un attribut particulier de l'image optique. Certaines aires vont préférer de se consacrer au traitement de tout ce qui concerne la couleur. C'est le cas d'une aire qui s'appelle V4 et que vous voyez par ici. D'autres vont au contraire se spécialiser pour traiter toutes les informations issues de la rétine et qui concernent le traitement du mouvement, donc la direction du mouvement, la vitesse du mouvement, la trajectoire, etc. Ce sont des régions, ce sont des aires qui sont situées vers... je vois mal, excusez-moi. Voilà, vers ici, vers les régions pariétales. D'autres, etc., vont analyser des formes. Donc il y a une spécialisation, si vous voulez, comme ça, un éclatement de ces différentes informations sur des aires qui vont chacune traiter une information particulière. Dans ces aires, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des neurones. Et que font ces neurones ? Ils vont précisément participer à ce traitement. Et on sait enregistrer l'activité d'un neurone chez un animal conscient, c'est-à-dire vigile, tout simplement, à qui on a appris à réaliser un certain nombre de tâches, par exemple à distinguer entre le vertical et puis de l'horizontal, par exemple. Et pendant qu'il réalise cette tâche, avec des microélectrodes qui sont insérées dans son cortex visuel primaire, on enregistre l'activité des neurones. Et on met ainsi en évidence des corrélations entre l'activité d'un neurone et ce que l'on présente à un animal. Alors, on peut faire ça, évidemment, dans les différentes aires visuelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les 32 ou 40, aujourd'hui, 40 aires visuelles, et s'apercevoir effectivement que chaque neurone visuel aux différents étages du cortex cérébral, premièrement, est conjugué à une certaine région de l'espace, donc à un champ récepteur, est conjugué à une certaine région de l'espace, et dans cette région de l'espace, effectue un certain type de traitement bien particulier. Alors la question qui se pose, alors voilà si vous voulez une représentation qui donne un peu le frisson de toutes les interconnexions entre ces différentes régions. C'est pas, si vous voulez, l'information visuelle ne va pas comme les flèches semblaient l'indiquer tout à l'heure de V1 en V2, de V2 en V3, de V3 en V4, etc. En fait, il y a un système hétérarchique c'est-à-dire que chaque région sont interconnectées entre elles par des lésions en avant et des lésions en retour, et donc il y a un travail de rétroaction considérable. Alors, ça, on le sait. Et la question qui se pose maintenant est la suivante. En fait, quand on voit un objet, on ne voit pas sa couleur, sa forme, sa position, la vitesse avec laquelle il se déplace et la trajectoire qu'il est en train de suivre. Quand vous jouez au tennis, vous n'avez pas le droit, le temps de vous poser toutes ces questions. Ce que vous voyez, c'est un objet perceptif unifié, unitaire. Vous voyez quelque chose qui est à la fois avec une certaine couleur, une certaine forme, une certaine vitesse, un certain bruit, etc. etc. Comment se fait l'unité perceptible ? Alors là, il y a eu beaucoup de théories et beaucoup de solutions qui ont été proposées par les neurobiologistes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je voudrais simplement que l'idée actuelle, qui est la plus raisonnable, c'est de penser que dans chacune de ces aires, des petits groupes de neurones interconnectés entre eux par des liaisons transitoires, actives, réalisent en quelque sorte un petit graphe neuronal. Les neurones sont situés au nœud de ce graphe. De l'activité circule, et c'est ce graphe qui, en quelque sorte, va représenter une propriété élémentaire d'un objet. Sa couleur, l'orientation, sa forme, sa distance, etc. Et il suffit ensuite de pouvoir relier ces graphes entre eux par un mécanisme de liage, cette fois-ci de second degré, pour que, par des activités électriques synchrones, pour que tout ce qui va fonctionner en même temps, dans l'air de la couleur, dans l'air du mouvement et dans l'air de la position, quand c'est en même temps, c'est que ça appartient au même objet. Donc l'unité perceptive de l'objet se fait précisément par des mécanismes de ce type-là qui évitent évidemment toute une série d'inconvénients. Alors, ce que cela implique quand même, c'est que il faut que les neurones ainsi liés dans les graphes ou dans les supergraphes émettent des signaux corrélés dans le temps. Et c'est cette corrélation qui fait la synchronisation. Pour qu'un neurone puisse distinguer dans ses entrées, dans ses multiples entrées, les signaux qui sont synchrones à sa propre activité de ceux qui ne le sont pas, il faut qu'il soit capable de faire une analyse temporelle sur la distribution des signaux extrêmement fine. Et là, il y a des débats théoriques extrêmement importants actuellement. Les gens ne sont pas toujours d'accord. Mais je pense que il y a de bons arguments pour penser qu'à travers, si vous voulez, les décharges de potentiel d'action, ces circulations, dans le motif même de la décharge, il y a beaucoup d'informations qui est portée. Ce qui permet évidemment d'abord de transporter de l'information par des motifs qui sont des motifs et pas simplement des taux moyens de décharge, mais par des motifs des patterns temporels de décharge sur des axones. Et ça permet également, disons, de faire du multiplexage, c'est-à-dire sur le même axone, envoyer des informations différentes. Il suffit que la distribution temporelle des signaux appartenant à une catégorie, à une autre catégorie, diffère d'une certaine façon. Je ne vais pas du tout entrer dans ces détails. Je voudrais maintenant arriver simplement vraiment au vif du sujet. Des expériences combinées. Qu'est-ce que sont ces expériences combinées ? C'est des expériences dans lesquelles il est possible de combiner dans un même protocole expérimental des méthodes de la psychologie expérimentale et celles de l'électrophysiologie cérébrale. Alors, chez le singe en particulier, il est possible, je vous l'ai montré tout à l'heure, de placer une microélectrode au voisinage immédiat d'un neurone. Et cette microélectrode, c'est une minuscule aiguille, n'est-ce pas, qui permet, c'est un petit capteur d'activité électrique. Cette microélectrode va permettre d'enregistrer l'activité pendant que l'animal, parfaitement éveillé, parfaitement motivé, également instruit de ce qu'il a à faire, est en train de réaliser sa tâche. Alors on peut imaginer beaucoup d'expériences combinées de ce type, et certaines ont été spécialement construites de façon à distinguer les états de conscience d'accès des états de conscience de non-conscience d'accès au moment où l'animal réalise une tâche. Et je vous en cite une pour vous donner un exemple de ce que cela veut dire. C'est l'exemple de la rivalité binoculaire. On sait depuis très longtemps, Helmholtz au XIXe siècle, un grand physicien, celui qui a inventé l'ophtalmoscope, avait démontré que quand on présente de façon dicoptique, c'est-à-dire on présente une image à un œil, l'œil gauche, et une image à l'œil droit, différente, mais en même temps, donc l'œil gauche voit une image donnée, l'œil droit, une image donnée. Ce ne sont pas deux images. Alors on peut faire cela par des jeux de miroir ou par des lunettes qui font la fusion. Le sujet, c'est une expérience en psychologie expérimentale qui est très banale, le sujet ne voit que l'une des deux. On ne voit pas les deux en même temps, on ne voit pas un mélange des deux, on voit l'une ou l'autre, et de temps en temps on voit l'une, puis tac, tout à coup le système bascule, si vous voulez, et on voit l'autre. Ça rappelle un petit peu ces images ambiguës que vous connaissez peut-être, les cubes de Necker qui peuvent apparaître comme avec la face avant vers vous, la face avant au contraire derrière. Donc des images qui peuvent changer comme ceci. C'est ce qui se passe avec la rivalité binoculaire. Alors cette rivalité binoculaire, on peut la mettre en évidence chez le singe. Et chez le singe, donc, on peut lui apprendre... Dans la situation dicoptique, on lui présente par exemple des barres horizontales à l'œil gauche, des barres verticales à l'œil droit, et on lui apprend que quand il voit des barres horizontales de l'œil gauche, il tire une petite manette avec la main gauche. Au contraire, quand il voit le stimulus qui est présenté à l'œil droit, il tire la manette avec l'œil droit. Très bien, ça on lui apprend cela, c'est très très bien. Et ensuite on va enregistrer dans une région qui est assez éloignée, au fond du sillon temporal inférieur, donc au fond de la voie ventrale dont je vous ai parlé tout à l'heure, des neurones. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'il y a des neurones qui vont avoir une activité, qui vont préférer certains stimulus à d'autres. Alors, on va choisir, par exemple, d'enregistrer un neurone qui va préférer le vertical. Quand on va lui présenter de l'horizontal, ce neurone-là, il va répondre un peu moins bien. Très bien. Ensuite, on met l'animal dans une situation dicoptique. C'est-à-dire qu'on lui montre du vertical et de l'horizontal, à l'œil gauche et à l'œil droit, et il doit nous dire laquelle des deux images il voit, la droite, ou la verticale ou l'horizontale. Eh bien, on s'aperçoit que le neurone dans cette zone-là ne répond par une décharge d'influx que si l'animal dit qu'il a vu le vertical, qui est la propriété que codait ce neurone-là. Or, la stimulation est strictement la même. Et ailleurs dans le cortex visuel, que ce soit en V1 ou dans les autres régions verticales, les neurones répondent que le stimulus soit vertical ou horizontal de la même façon. Il n'y a que dans cette zone-là, qui est très éloignée dans le sillon ventral, où on a effectivement l'activité d'un neurone qui signe en quelque sorte le caractère conscience d'accès de l'animal. Le neurone répond. En d'autres termes, si vous voulez, en quelque sorte, on pourrait dire que le neurone voit exactement ce que voit l'animal. Alors, il y a un autre cas que je voudrais vous signaler très rapidement, et qui est le suivant. C'est vous savez que la couleur a une propriété, d'ailleurs comme toutes les propriétés perceptives, d'être invariante. C'est-à-dire que la surface d'un objet, une surface rouge ou une surface jaune comme celle-ci, va rester de la même couleur, quelle que soit la lumière avec laquelle je l'éclaire, que ce soit la lumière du jour, que ce soit les projos, que ce soit des halogènes, quelle que soit la composition spectrale de la lumière, la couleur me restera perceptivement la même. J'assure la constance perceptive de la couleur. Pourtant, la composition spectrale de la lumière réfléchie par cette surface va varier énormément, puisque je fais varier la composition spectrale des lumières qui éclairent cette surface. Eh bien, quand on enregistre des neurones qui codent un codage spectral en V1, c'est-à-dire à un stade très précoce dans le cortex visuel, on va voir des neurones qui, eux, vont fonctionner un petit peu comme fonctionne un photomètre. C'est-à-dire que chaque fois que je vais changer l'éclairage de cette surface, le neurone va répondre de façon différente. Il va suivre, en quelque sorte, les indications que donne l'appareil physique. Par contre, si j'enregistre en V4, dans une région également qui est située dans la voie ventrale de notre système visuel, j'ai des neurones qui, eux, ne vont pas du tout suivre le photomètre, mais qui vont répondre comme vous et moi, c'est-à-dire qui vont répondre comme l'observateur humain, qui vont dire s'ils codent le jaune, ils vont continuer à répondre le jaune, même s'il y a très peu de jaune dans le stimulus qui est réfléchi par la surface en question, parce que j'ai fait des métamères, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons, dans ces zones-là, des neurones qui répondent comme nous, nous répondons. Alors, il y a quelque chose qui est très important et que je voudrais faire remarquer ici. C'est un exemple qui est très connu, qui traîne dans tous les livres de psychologie expérimentale. Vous avez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous avez au fond un couple, ici, à la pointe de ma flèche. J'ai simplement sélectionné ce couple, j'ai fait une copie, j'ai dragué, et je l'ai collé, je l'ai collé à l'avant. Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez maintenant, presque simultanément, ces deux objets visuels, ce couple au fond et ce couple à l'avant. Eh bien, ce que vous voyez, ce sont quand même des objets, des couples qui n'ont pas la même taille. Celui-ci, je suis sûr, vous paraît beaucoup plus petit que celui-là. Pourtant, c'est exactement la même image, c'est exactement sur votre rétine, en termes de taille angulaire, c'est exactement la même image. Et non seulement c'est la même image en termes de taille angulaire sur la rétine, mais elle est traitée par la même région rétinienne, parce que quand vous regardez ce couple au fond, l'image de ce couple est conjuguée sur votre rétine centrale, et quand vous déplacez votre regard pour regarder celui-là, l'image de ce couple tombe exactement sur la même région rétinienne. Donc voilà, deux images identiques, traitées identiques au niveau de la périphérie, et pourtant votre percept est complètement différent. Donc le percept, si vous voulez, est une espèce de niveau intermédiaire entre un niveau de traitement de l'information très bas niveau, au niveau sensoriel, ou au niveau, disons, même jusqu'en V1, V2, V3, et un niveau beaucoup plus élevé, un niveau où, à partir du moment où vous donnez un sens, une signification particulière à ce que vous voyez. Eh bien, la conscience d'accès, elle porte sur ce niveau intermédiaire. Votre conscience d'accès, elle porte sur ces éléments qui restent invariants dans des situations perceptives de ce type-là. Et c'est parce qu'ils restent invariants qu'ils peuvent avoir une fonction biologique. Pensez à la couleur. Si un fruit changeait de couleur entre le matin et le soir, pour un primate frugivore, évidemment, ce serait extrêmement gênant. Si on veut que la couleur ait une valeur biologique, puisse être utilisée rationnellement dans l'action d'un organisme, il faut que cette couleur, et on peut faire le même raisonnement pour tous les autres attributs, reste invariant. Donc la conscience d'accès, si vous voulez, est située à ce niveau intermédiaire de traitement de l'information visuelle, ce qui concerne la conscience visuelle, qui est ce niveau où s'établit, en quelque sorte, l'invariance perceptive. Alors, l'invariance perceptive, on en décrit les mécanismes neurologiques. Je pourrais, si j'avais le temps, vous indiquer, en ce qui concerne la couleur, en ce qui concerne la forme, en ce qui concerne le mouvement, en ce qui concerne toutes les propriétés, tous les attributs visuels d'un objet, ils sont soumis à cette même loi de rester invariants en dépit de variations considérables qui peuvent se poser dans tout ce qui se passe autour. Alors ça, c'est une première série d'expériences. Notre série d'expériences, évidemment, je vais être assez rapide, c'est l'imagerie cérébrale. Vous savez que depuis quelques années, on a pu développer des techniques. En gros, il y a deux grandes catégories de techniques qui permettent de visualiser les activités cérébrales chez un sujet... 5 minutes ? Chez un sujet humain. Des techniques d'imagerie électromagnétique. Nous avons déjà parlé de l'EEG, donc on peut enregistrer les activités électriques ou on peut enregistrer les activités magnétiques avec des techniques dites de magnétoencéphalographie. Alors, ces deux techniques sont complémentaires, elles ne donnent pas exactement le même type d'information. La magnétoencéphalographie mesure la composante magnétique d'un champ électromagnétique, alors que l'électroencéphalogramme, lui, mesure sa composante électrique. Et ces deux techniques ont des avantages en termes de des avantages et des inconvénients en termes de résolution spatiale et en termes de résolution temporelle. En particulier, l'EEG permet de détecter des dipôles qui sont orientés de façon perpendiculaire par rapport au scalp, alors que la MEG, la magnétoencéphalographie, au contraire, est plus sensible à des dipôles qui sont situés dans le plan des différentes couches du cortex cérébral. Donc, ces deux mesures sont intéressantes. Alors, pour pouvoir, c'est quand même important, ça vous indique, on fait des recueils quand même d'activités électriques ou électromagnétiques. Au niveau du scalp, il faut quand même, c'est assez loin de la source qui a donné naissance à ces signaux que l'on recueille, il faut pouvoir localiser ces sources. Et donc là, on n'a aucun moyen d'aller voir directement les sources, on n'a que des moyens indirects, on peut inférer la position des sources en développant des modèles mathématiques et en essayant de résoudre ce que les physiciens appellent le problème inverse. Ici, il s'agit d'un problème inverse bioélectrique. Et donc la position des sources qui est ainsi inférée cette opposition est inférée à partir d'un modèle. Et si le modèle n'est pas très bon, eh ben, on ne localise pas très bien les sources. Et donc il faut rajouter, si vous voulez, à vos observations, un certain nombre d'hypothèses. Il faut choisir ces hypothèses, et ça, ce n'est pas toujours évident. Et même si on avait parfaitement choisi ces hypothèses, même si on pouvait localiser avec grande précision les sources de ces événements bioélectriques, et en particulier des événements bioélectriques liés à la conscience d'accès, rien ne nous dirait que le signal qu'on recueille est le signal pertinent pour la conscience d'accès. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui semble être le plus pertinent dans ces circulations de signaux dans le cerveau, c'est le motif temporel fin des décharges d'influx et les synchronisations à des niveaux, à des échelles de temps qui sont nettement inférieurs à la milliseconde, et tout ceci, bien entendu, échappe à ces techniques. Il y a des techniques plus récentes, mises au point dans les quelques dernières années, qui sont d'une part la tomographie par émission de positons, et d'autre part l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, et qui révèle l'activation cérébrale, respectivement, en mettant en évidence des changements locaux dans la consommation de glucose, ça, c'est les émissions de positons, soit dans le métabolisme de l'oxygène, dans l'IRM fonctionnel. Alors, une hypothèse largement acceptée aujourd'hui, c'est que, quel que soit le phénomène cérébral, vasculaire ou neuronal qui est mis en évidence par ces techniques-là, il doit y avoir une différence mesurable quand une tâche est réalisée accompagnée d'un état mental conscient et quand elle est réalisée accompagnée d'un état mental qui reste non conscient. Et donc, il y a beaucoup de travail qui se fait là. Mais on peut faire la même remarque, même aggravée, sur cette technique-là, que celle que je faisais à la technique électrophysiologique, c'est-à-dire que non seulement ces signaux sont extrêmement lents, il faut des minutes, voire des heures pour les faire apparaître, ce sont des signaux vasculaires, ce ne sont pas directement des signaux nerveux. Donc comment peut-on espérer, me semble-t-il, je reste un peu sceptique, espérer mettre en évidence des activités neurales responsables de phénomènes aussi fugaces que la conscience d'accès, ou sans parler de la conscience phénoménale, avec des techniques qui sont désespérément lentes et donc, me semble-t-il, hors d'atteinte des résolutions spatiales et temporelles de ces mesures de flot sanguin local. Alors ce scepticisme, évidemment, il est circonstanciel, il est d'aujourd'hui. Rien ne dit que les techniques, et elles sont, ça évolue très vite, rien ne dit que très rapidement ces techniques ne vont pas permettre effectivement d'aller plus loin dans cette détermination. Et surtout, on met beaucoup d'espoir dans la fusion des images obtenues par ces différentes techniques. Quand on enregistre simultanément les EEG, le MEG, l'émission de positons, etc., simultanément ou presque simultanément, dans des mêmes tâches, on peut, profitant des avantages et des inconvénients de chacune de ces techniques, obtenir des informations très importantes. Alors évidemment, il y a tout un domaine dans lequel je n'ai rien dit jusqu'à présent et qui est traditionnellement, historiquement, le domaine dans lequel la préoccupation de mettre en relation la conscience et le cerveau était la plus forte, c'est tout le domaine de la neuropsychologie. En neuropsychologie, c'est l'étude des relations entre, d'une part, des troubles provoqués par des lésions cérébrales, des troubles cognitifs provoqués par des lésions cérébrales et la localisation de ces lésions cérébrales. Alors, il y a deux exemples que je ne développerai pas, que je vous cite simplement, qui sont développés dans l'article. C'est un exemple que l'on appelle la vision aveugle, des sujets qui ont, pour des raisons chirurgicales, eu tout leur cortex visuel primaire d'un côté, par exemple du côté droit, enlevé, un fameux cas publié par Weisskranz en 1974, où tout le cortex occipital droit a été excisé parce qu'il y avait une malformation artério-veineuse. Et donc le sujet, il a ce que l'on savait depuis très longtemps, ce que l'on appelle une hémianopie, c'est-à-dire il est complètement aveugle dans tout le demi-champ gauche. Il est complètement aveugle. Et pourtant, dans cette partie, ce scotum, dans cette partie dans laquelle il est aveugle, il est quand même capable de réaliser un certain nombre de comportements visuomoteurs. Il est capable de pointer, il est capable de distinguer le vertical de l'horizontal, il est même, semble-t-il, capable de distinguer les couleurs. Et pourtant, il ne fait ces tâches-là que dans des situations psychologiques extrêmement contraignantes, des situations que l'on appelle de choix forcés, et donc on ne peut pas parler ici d'une conscience inconsciente, parce qu'on pourrait dire, s'il est capable de diriger son doigt sur une information visuelle qu'il ne voit pas, il a donc une conscience d'accès, puisque cette information visuelle, il l'utilise dans un comportement rationnel, c'est aller pointer, et pourtant, il n'est pas conscient de le faire. Donc, il faudrait dire qu'il y a une conscience non consciente. Ce n'est pas tout à fait nécessaire, puisqu'il n'est pas dans une situation tout à fait naturelle, en ce sens qu'il est obligé de faire quelque chose. Il est obligé de faire quelque chose, et donc son comportement n'est pas rationnel. Ce n'est pas lui qui utilise ces informations qu'il a à sa disposition pour décider d'aller pointer. Il pointe parce qu'on lui demande de pointer. Il y a un autre exemple qui est la prosopagnosie, dont je ne dirai rien. Laissez-moi terminer simplement, pour aller plus vite, voilà, nous avons jusqu'à présent essentiellement parlé de la question dite le problème facile, c'est-à-dire la conscience d'accès. On peut être d'accord avec un grand neurobiologiste, un prix Nobel, qui n'a pas eu en neurobiologie, mais quand même qui est un prix Nobel, Francis Crick, quand il dit qu'à chaque instant, certains processus neuronaux actifs corrèlent avec la conscience, alors qu'à d'autres moments, ils ne corrèlent pas. Donc une telle formulation permet en effet de rechercher empiriquement, expérimentalement, des corrélats de la conscience, et Francis Crick a proposé pas mal de théories là-dessus. Alors, comment essayer de... Par contre, si le problème facile, nous avons vu que le problème facile était déjà un petit peu difficile, donc si le problème facile s'avère déjà difficile, le problème difficile risque d'être tellement difficile que je ne me risquerai pas de l'aborder au grand bonheur de M. Michaud, qui me verra donc terminer cette conférence. Sinon, simplement pour dire en conclusion que je ne vois pas pourquoi la conscience, et ça je m'engage moi, s'il y a des collègues philosophes dans la salle, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Je ne vois pas pourquoi la conscience phénoménale ne serait pas une conscience d'accès à la conscience d'accès, c'est-à-dire une espèce de méta-représentation utilisant en particulier le langage pour s'exprimer, notamment le langage dans sa forme conversationnelle, dans sa forme narrative. Est-il possible, par exemple, d'être déprimé, être dans une conscience phénoménale de déprime, si l'on n'a pas les moyens, même frustre, de le dire ou tout simplement de se le dire? La conscience phénoménale pourrait ainsi, de cette façon, par l'intermédiaire de ce langage, même ce langage s'il n'est pas proféré, si c'est un langage intérieur, sortir, en quelque sorte, de sa pure subjectivité, et être par là même soumis à de multiples influences culturelles. Et par exemple, si je suis déprimé, je sens ma dépression actuelle, mais toujours bariolé de tout ce que je sais sur l'histoire de la dépression, sur la mélancolie de Descartes, sur l'altrabile, sur le Prozac, sur l'impact social de la dépression. Tout ceci entre dans ma conscience, me semble-t-il, dans ma conscience phénoménale de ma dépression, qui donc s'appuie sur ce langage narratif, si vous voulez. Alors, en ce qui concerne les mécanismes, je vous ai dit que la représentation qui constitue la conscience d'accès se présente sous la forme d'un motif neuronal dynamique utilisant un codage spatio-temporel dans un groupe de neurones associés par des mécanismes de liage, par des mécanismes de synchronisation entre eux. Et on pourrait simplement proposer que la méta-représentation, celle qui constitue la conscience phénoménale, se présente sous la forme d'un liage massif, beaucoup plus massif, et tellement important que l'aspect spatial disparaîtrait pour laisser simplement l'aspect temporel. Donc, le codage spatio-temporel servirait aux représentations et à la conscience d'accès, et un codage temporel dans notre cerveau concernerait uniquement la conscience phénoménale. Et c'est un petit peu c'est pour ça que, peut-être, le caractère unidimensionnel de notre conscience phénoménale, on ne peut pas être dans un état de conscience phénoménale multiple, on est dans un seul état qui se déroule toujours dans une certaine tranche de temps. S'il en était ainsi, le problème difficile ne serait peut-être pas plus difficile que le problème facile, qui est déjà assez difficile comme ça, il serait en tout cas un peu plus riche. Je vous remercie.
Monsieur le professeur, je me pose une question que beaucoup d'entre nous se posent peut-être aussi. Qui a une conscience? Quels sont les êtres qui ont une conscience, à part les hommes, les bébés, les fœtus, les animaux? Peut-on dire qu'un végétal peut avoir une conscience? Est-ce qu'un spermatozoïde a une conscience? Est-ce qu'un leucocyte a une conscience? Est-ce qu'une cellule isolée a une conscience? Je suppose que les objets inanimés n'en ont pas, mais j'aimerais, en tant que candide, qu'on me le confirme.
Oui, je...
Et où trouver la réponse? J'ai cherché dans des bibliothèques, dans des encyclopédies. Je ne sais même pas où m'adresser pour trouver une réponse à de telles questions. Pouvez-vous nous aider, monsieur?
Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas vous donner une réponse positive. Je vais essayer de vous... On répond ou on fait d'abord toutes les questions? À chaque fois. C'est un problème qui est extrêmement important. Effectivement, c'est bien connu en philosophie et en neurosciences, c'est celui de l'extension de la conscience. Jusqu'où peut-on, à partir de quand apparaît-elle et jusqu'où peut-on aller pour attribuer de la conscience à un organisme? Bien entendu, tout dépend de ce qu'on entend par conscience. Si on entend par conscience cette conscience de créature dont je parlais tout à l'heure, à ce moment-là, c'est coextensif au vivant. Tout ce qui est vivant est conscient. Tout animal, les végétaux, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, en ce qui concerne les animaux, un animal, si on dit que conscience est simplement ne pas être comateux, endormi ou anesthésié, tout ce qui n'est pas comateux, endormi ou anesthésié est conscient. Du point de vue de la conscience de soi, déjà, c'est un peu plus difficile, cette conscience de soi, parce que c'est son aspect récursif. Je pense que je pense que je pense que je pense que je pense. Mes pensées, ça nécessite le langage. Donc, on peut dire que cette conscience de soi, et ma proposition aussi, c'est la même chose pour la conscience phénoménale, cette conscience de soi et la conscience phénoménale n'est possible qu'à partir du moment où il y a du langage, et notamment le langage dans sa forme narrative. Donc, l'espèce humaine, et exclusivement l'espèce humaine, et l'enfant à partir du moment où il commence à vraiment parler. Avant, par contre, la conscience d'accès, là, la question est beaucoup plus ouverte. Et on peut attribuer de la conscience d'accès, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser des informations et que j'ai un dispositif rationnel dans mon cerveau pour utiliser cette information, pour contrôler des pensées, pour contrôler des actions, pour contrôler du langage quand j'ai du langage, là on peut très bien l'attribuer à des animaux. Un animal, il a également un comportement rationnel. Un animal, il a un comportement rationnel. Il va utiliser un certain nombre d'informations grâce à son dispositif cognitif pour optimiser cette information dans un comportement rationnel qui assure sa propre survie. Il ne va pas se jeter dans les flammes, il ne va pas se jeter dans la gueule du loup, si je puis dire. Donc il va choisir ses partenaires sexuels, il va trouver sa nourriture, éviter les dangers, etc. Autant de comportements qui sont des comportements intelligents et qui nécessitent, me semble-t-il, de la conscience d'accès. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. La conscience d'accès, je peux aller pas jusqu'au ver de terre, probablement. Il faut qu'il y ait quand même un certain nombre, une certaine complexité du système. Pourquoi? Parce que à quoi va servir la conscience, notamment la conscience d'accès? Elle sert essentiellement, si vous voulez, elle est associée à de la mémoire à court terme, elle est associée également à des mécanismes attentionnels, à l'attention dont je n'ai pas parlé, et elle permet en quelque sorte de modéliser. Elle permet à un cerveau qui la possède de modéliser ce qui se passe dans le monde. Et donc, quand on a un monde très compliqué, très complexe, la modélisation va être complexe et le comportement devrait être très flexible pour pouvoir s'adapter à ces complexités. Et un animal qui est doué de conscience et qui donc peut modéliser son comportement avant de l'exécuter, il a une chance de survie plus grande qu'un animal qui répète toujours la même chose. Donc l'araignée qui tisse sa toile, ou cet insecte qui, le bousier, hein, si vous voulez, qui pousse toujours sa boule, on l'enlève, il continue à la pousser, on la remet, il continue toujours, pour moi, ils n'ont pas de conscience, d'accès, parce que, précisément, ils ne sont pas capables de modéliser le monde dans lequel ils vivent.
Vous avez évoqué des traitements sur des sujets auxquels on a déconnecté les deux hémisphères cérébraux, et vous avez dit qu'on avait tendance à penser qu'ils avaient deux consciences. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont deux consciences d'accès qui leur permettraient de mener deux raisonnements différents en même temps? Oui. Deux consciences de soi qui leur donnent l'impression d'être un personnage double, et deux consciences phénoménales qui leur permettent de ressentir à la fois la joie et la tristesse.
Deux consciences d'accès, certainement. Beaucoup d'expériences ont été faites sur des sujets qui ont eu cette section, qui était très à la mode, qui est toujours à la mode d'ailleurs en Californie. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des bons laboratoires de neuropsychologie. Et donc, par exemple, chez ces personnes là, qui ont un split brain, donc un cerveau dédoublé, quand on présente un stimulus dans le demi-champ gauche, ce stimulus va être traité à droite. Eh bien, ce stimulus, il va être vu par l'hémisphère droit. Mais l'hémisphère droit, il n'y a pas de langage, et donc il ne pourra pas nommer cet objet. Si on présente au contraire un objet dans l'hémisphère droit, il va être vu par l'hémisphère gauche, il y a le langage, il va pouvoir nommer l'objet. Donc on peut très bien présenter quelque chose dans le champ droit et lui faire faire quelque chose dans le demi-champ gauche, il n'y aura pas d'interférence. Donc il marche en parallèle. En ce qui concerne la conscience de soi, la littérature est un peu, conscience de soi et conscience phénoménale, la littérature est un peu floue, d'abord parce que la conscience phénoménale c'est un peu flou, et puis également parce que les observations sont toujours, me semble-t-il, ont toujours été un petit peu anecdotiques. Donc conscience d'accès, oui, il y a une double conscience d'accès, ils sont deux consciences séparées.
Monsieur, vous l'avez, enfin je ne l'ai pas entendu, vous n'avez pas parlé des lobes frontaux ni du système réticulé.
Oui, oui,
et il me semble que les deux ont une grande part dans la conscience.
Oui, oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison, et je ne l'ai pas parlé, bon, parce qu'on peut pas, c'était pas possible de pas, il fallait faire des choix. Donc, en ce qui concerne la conscience de créature, hein, cette conscience vigilance, si vous voulez, ça a donné lieu à beaucoup de travaux, et dès les années 40, on avait mis en évidence, effectivement, dans le tronc cérébral, des systèmes qui contrôlaient, en quelque sorte, la vigilance, et on connaît actuellement assez bien tous ces mécanismes-là, qui sont dans le tronc cérébral, dans le mésencéphale, dans le diencéphale, jusqu'au niveau du cortex cérébral. Le cortex moteur, enfin les régions frontales, préfrontales et frontales, sont extrêmement importantes, pas directement peut-être dans la conscience d'accès, mais davantage dans les phénomènes, disons, liés d'une part à la mémoire, et d'autre part à l'attention, et d'autre part à l'exécution planifiée de certains types de comportements. Vous savez que des lésions frontales empêchent le déroulement de scripts d'action. On ne sait pas trop comment organiser son action. Donc, elle joue un rôle très important dans la conscience, mais pas au niveau, me semble-t-il, au niveau de la conscience d'accès.
Est-ce qu'on explique comment se fait-il que les décors chimiques très différents produisent une anesthésie? Naturellement, il y a des familles chimiques, les halogénés, etc., qui donnent une anesthésie, mais vous avez des corps chimiques tout à fait différents des halogénés, par exemple, et qui donnent également une anesthésie. Alors, comment se fait-il que tous ces corps si différents les uns des autres donnent une absence de conscience?
L'anesthésie, si vous voulez, on peut obtenir de l'anesthésie à un niveau très périphérique, hein, en jouant au niveau local, au niveau des récepteurs, c'est donc les anesthésiques locaux par exemple, mais l'anesthésie peut porter également sur des régions centrales, et donc mettre hors circuit le cerveau à l'arrivée d'informations périphériques. Et donc je ne suis pas du tout compétent dans ce domaine-là, mais je ne vois pas là un problème. c'est un problème difficile, un problème que les neurochimistes et les neurophysiologistes étudient, mais ce n'est pas problématique, ce n'est pas mystérieux.
Vous avez envie de nous parler de l'attention, et moi aussi j'aimerais, parce que j'ai remarqué qu'en philosophie, on parle beaucoup de l'intention, de l'intentionnalité, mais par contre, sur l'attention, je trouve qu'il y a un vide important, au moins en philosophie. Donc si vous avez quelque chose à nous dire d'important dans ce domaine...
Voilà, il y a une relation très importante entre l'attention et la conscience. Cette relation a été vue depuis très longtemps. William James a été probablement un des premiers à avoir écrit de nombreuses pages sur les relations entre l'attention et la conscience. Il y a même certains qui prétendent que la conscience, ce n'est jamais que de l'attention et de la mémoire à court terme. Et donc, avoir conscience, une conscience visuelle de quelque chose, c'est parce que, d'une part, j'ai focalisé mon attention sur ce quelque chose-là et que je maintiens pendant un certain temps ce que je suis en train de voir. Et c'est cette conjonction d'attention et mémoire à court terme qui ferait la conscience. Personnellement, je pense qu'il faut le distinguer, parce que même on peut avoir un mécanisme d'attention dans toutes les théories. Là aussi, il y a beaucoup de théories de l'attention qui ont été proposées, mais il y a quand même un élément constant dans toutes les théories qui ont été proposées sur l'attention, c'est la sélection. La sélection, on est attentif quand on sélectionne. Quand on sélectionne quelque chose à voir, quelque chose à entendre, etc. Donc, on sélectionne. Et une des métaphores les plus courantes, c'est le projecteur. L'attention, c'est un projecteur qui se balade comme ceci. Alors, on peut avoir un projecteur, un faisceau très large, ou au contraire, réduire le faisceau pour mieux voir les détails, etc. Donc c'est une métaphore utile. On connaît un certain nombre de mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent ces différentes formes d'attention. L'attention, l'attente attentive, si vous voulez, mais ouverte, et l'attention focalisée. On sait que ce n'est pas les mêmes circuits neurochimiques. Il y a des équipes en France. Mon maître Pierre Buzer et son épouse ont beaucoup travaillé là-dessus. Oui, alors, bon, il y a des circuits, c'est toujours pareil. Dans le cerveau, c'est très difficile de dire c'est là que ça se passe. Parce que dès qu'il se passe quelque chose quelque part, c'est tout le cerveau qui fonctionne. Donc ça, c'est une première remarque. Donc quand quelqu'un vous dit l'attention va se trouver dans tel noyau du thalamus, vous pouvez être sûr qu'il se trompe ou qu'il dit, enfin, il ne sait pas ce que c'est. Donc, mais il y a des grands systèmes, effectivement, il y a des grands systèmes neurochimiques et anatomo-fonctionnels, si vous voulez, qui sous-tendent les différents aspects de l'attention, et ça, on commence à les connaître. Bon, il y a le noyau réticulaire thalamique, il y a des mécanismes de feedback entre le cortex et le thalamus, etc. Donc, on a des propositions expérimentalement solides qui ont été proposées.
Est-ce que le système liant éveil et motivation, ce que vous avez dit dans votre énoncé, est le même que celui liant, ou du même ordre, conscience et réalité ?
Oui, alors, bon, vous avez peut-être lu le livre de Damasio, l'erreur de Descartes, qu'il consacre un peu, ou dans lequel il y a beaucoup d'informations très utiles sur le cortex préfrontal dont on parlait tout à l'heure, et sur ces systèmes de motivationnel. Donc c'est vrai qu'on a en permanence, notre cerveau a en permanence des informations issues du système nerveux végétatif. Donc des systèmes à la fois qui nous renseignent sur l'état de nos viscères et en particulier sur l'état de soif, de faim, de désir sexuel, de tout ce qui peut faire notre vie émotive. Et toutes ces informations arrive notamment dans les régions pariétales de l'hémisphère droit, dans des régions assez variées, impliquant le cortex pariétal de l'hémisphère droit. Donc c'est là où arrivent ces informations, en même temps que les informations, disons, somatiques, mais venant du corps, c'est-à-dire des articulations, des muscles et cutanés. Donc il y a une représentation somatique dans le cortex pariétal droit, et les informations sont ensuite envoyées vers les régions frontales, bilatérales, mais surtout également contralatérales, et ça intervient dans les mécanismes de régulation de la conscience, de l'action, et donc de la réalité, parce que la réalité, c'est ce sur quoi on peut agir de façon rationnelle. Donc effectivement, il y a par exemple, il y a un syndrome qui est neuropsychologique qui est tout à fait surprenant, qui a été décrit en 1918 ou 19 par Babensky, qui est ce que l'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire que le patient ne sait pas qu'il est malade. Il a une paralysie, par exemple, gauche, il ne le sait pas, il est complètement paralysé et il ignore son propre déficit. Il l'ignore complètement. Et non seulement il l'ignore, alors bon, on étudie bien ça de façon très, 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 très détaillée, mais en même temps, on s'aperçoit que ces gens-là, ils ont assez peu d'émotions, et surtout, ils ne s'en font pas. Si vous étiez paralysé à gauche, on ferait du souci, on se poserait des problèmes sur l'avenir. Eux ne se font aucun souci. Aucun souci. Donc, ils sont un peu déréalisés, si je puis dire. Je ne sais pas qui a posé la question. Mais ils sont, en quelque sorte, un peu déréalisés, mais... C'est l'explication donnée par Damasio, c'est-à-dire c'est cette convergence à la fois d'informations sur son corps propre, des informations sur l'extérieur, des systèmes cognitifs qui permettent de régler l'action. Quand tout ça est déréglé quelque part, eh ben, ça ne marche pas bien. C'est pour ça que c'est très difficile de dire que c'est cette région-là du cerveau qui intervient et pas telle autre région du cerveau. Et récemment, il y a une expérience qui a été faite par un collègue d'Orsay, Stanislas Dehaene, où il a étudié, en utilisant cette technique dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, d'amorçage, une technique tout à fait classique en psycholinguistique. On présente des mots subliminaires et au sujet, ensuite, il doit accéder à des mots, donc indiquer par un comportement que le mot qui lui a été présenté de façon subliminaire a quand même eu un effet dans le choix qu'il va faire après, et il regarde ces sujets avec des techniques électroencéphalographiques et des techniques également d'IRM fonctionnel ou de PET scan, d'IRM fonctionnel. Et il s'aperçoit que pour qu'il y ait conscience, la différence qu'il y a entre la réalisation de la tâche est réalisée dans deux situations, avec conscience ou sans conscience. Mais il s'aperçoit, ou il décrit, que pour que la tâche soit réalisée avec conscience, il faut non seulement que les régions inférotemporales dont je vous ai montré, raconté dans ces expériences de rivalité binoculaire, qu'elles intervenaient, qu'elles étaient corrélées avec notre percept, donc avec notre conscience d'accès, il faut non seulement que ces régions-là soient activées, mais que soient activées également les régions frontales, simultanément et de façon synchrone. Donc là, ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure sur le rôle des lobes frontaux. Donc il faut qu'il y ait une résonance, en quelque sorte, une synchronisation. C'est un système, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une structure, c'est tout un système qui intervient.
Michel Humbert, un grand merci.